VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 septembre 2022. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous. Au sommaire du journal, le lieutenant-colonel Damiba a réitéré devant l'Assemblée générale de l'ONU son appel aux partenaires du Burkina Faso à accompagner son pays dans la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale. Interview exclusive dans cette édition du président Macky Sall, président du Sénégal et de l'Union africaine.
L'idéal pour la CEDEAO, ce n'est pas de faire des sanctions contre un État membre, mais c'est de travailler à vraiment accompagner ces moments difficiles où l'Afrique de l'Ouest est confrontée justement à ces coups d'État répétitifs.
Le président Macky Sall du Sénégal. La CEDEAO sanctionne la junte guinéenne et va dépêcher 3 chefs d'État au Mali pour obtenir la libération des 46 soldats ivoiriens. En RDC, le Premier ministre Michel Sama Lukonde est en visite de travail à Goma pour évaluer l'état de siège au Nord Kivu. En Centrafrique, la Cour suprême invalide un comité de rédaction d'une nouvelle constitution mise en place par le chef de l'État. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute des cours et des sports, mais tout d'abord le journal. L'Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York. Ce matin, le président de la transition du Burkina Faso a pris la parole pour évoquer le rôle de son pays dans la lutte contre le terrorisme. Les détails avec Dili Diko, notre correspondante à New York.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a parlé de l'importance de l'accès à l'éducation pour tous et de la nécessité de résoudre les défis mondiaux ensemble. Mais il a surtout évoqué la situation de son pays, le Burkina, et la transition politique en cours.
Le 24 janvier 2022, un groupe de jeunes patriotes s'est vu contraint de prendre ses responsabilités dans la gestion publique des affaires de l'État. Face, bien entendu, à la dérive de la gouvernance politique en place, à l'insécurité grandissante dans notre pays, à la désintégration progressive et continue de l'État, en mettant un terme à un régime démocratiquement élu, mais chaotique. Loin de nous toute idée de nous justifier ou d'encourager des pratiques de déstabilisation ou de violation des ordres constitutionnels.
Il conduit cette transition depuis 8 mois et il a appelé au triomphe du bon sens.
En effet, si dans l'absolu, le mouvement du 24 janvier dernier est illégal et peut être répréhensible au regard des principes chers aux Nations unies et à la communauté internationale dans son ensemble, nous pensons que cette interruption de l'ordre constitutionnel au regard de ce qui prévalait était nécessaire et indispensable.
Réitérant sa main tendue aux partenaires du Burkina, il a estimé qu'aucune mesure de précaution ou de prévention ne pourra empêcher le terrorisme de s'inviter outre-Atlantique si le Sahel est abandonné à lui-même. Pour finir, il a appelé à un monde solidaire afin que l'abondance des uns ne soit pas la cause du dénuement des autres. La semaine de haut niveau se poursuit demain samedi avec les discours du Mali, de la Russie et de l'Égypte. Les débats vont reprendre lundi avec le Congo, la Mauritanie, l'Algérie et le Bénin. Dili Diko, VOA Afrique, New York.
Des référendums d'annexion par la Russie ont débuté ce vendredi dans des régions d'Ukraine contrôlées entièrement ou en partie par Moscou. Des scrutins qualifiés de simulacres par Kiev et les Occidentaux. Le président Macky Sall, président du Sénégal et de l'Union africaine, est revenu dans une interview exclusive à VOA sur la position africaine dans ce conflit.
Vous savez, d'abord la guerre en Ukraine impacte l'ensemble des économies du monde, pays développés comme pays en développement. Seulement les pays en développement, les pays pauvres, sont plus fragiles parce qu'ils n'ont pas les leviers des pays riches. Vous savez, pendant la Covid, ce que les États-Unis ont pris comme mesure, l'Union européenne comme mesure, nous n'avons pas la possibilité de prendre de telles mesures parce que nous ne pouvons pas utiliser la planche à billets, nous ne pouvons pas racheter la dette des États, nous ne pouvons pas dégrader de façon fondamentale les déficits, nous ne pouvons pas nous endetter comme certains le font, donc nous sommes vulnérables. Et c'est pourquoi la guerre en Ukraine, bien qu'étant très éloignée du théâtre africain, mais les Africains sont parmi les victimes les plus importantes.
Nous retrouverons le président Macky Sall dans la seconde partie de cette édition sur les sujets de la Guinée, du Mali et du Sénégal. Les dirigeants de la CDAO ont condamné la détention de 46 soldats ivoiriens au Mali lors d'un sommet extraordinaire jeudi à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Ils ont aussi décidé d'infliger de nouvelles sanctions à des membres de la junte au pouvoir en Guinée face à l'inflexibilité des militaires sur une date de retour des civils au pouvoir. Mamadou Mfa.
La CDAO condamne avec fermeté l'incarcération des soldats ivoiriens détenus par Bamako et dénonce le chantage exercé par les autorités maliennes, dit le communiqué final. La CDAO va dépêcher au Mali les présidents du Ghana, du Togo et du Sénégal pour obtenir leur libération, a déclaré Omar Aliou Touré, le président de la commission de la CDAO. Les leaders de la CDAO ont aussi décidé d'infliger un gel des avoirs financiers et une interdiction de voyager à des membres de la junte au pouvoir en Guinée. Autre sanction, la suspension de toute assistance et transaction financière en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CDAO, selon le communiqué final. Les États membres vont rappeler pour consultation leur ambassadeur accrédité en Guinée. La CDAO donne un mois à partir du 22 septembre aux autorités guinéennes pour accepter un délai raisonnable et acceptable pour céder la place à des civils élus sous peine de sanctions plus sévères.
Toujours à New York, les chefs de la diplomatie américaine et chinoise se sont rencontrés sur fond de tension. À propos de Taïwan, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et son homologue chinois Wang Yi se sont serrés la main et ont échangé quelques amabilités devant les caméras avant d'entamer leur entretien. Il s'agit de leur première rencontre depuis des discussions en juin à Bali, où les deux hommes avaient affiché leur volonté de renouer le dialogue.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République centrafricaine, saisie par l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé des décrets du président Faustin Archange Touadéra, créant un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après la Cour constitutionnelle centrafricaine, les décrets créant un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution sont invalidés. La juridiction suprême explique qu'une révision de la loi fondamentale ne peut se faire qu'après la mise en place du Sénat, qui n'a pas eu lieu. La Cour rappelle que l'initiative d'un référendum appartient au président, mais précise que cette révision ne peut se faire en violation du serment prêté par M. Touadéra à son investiture. Il avait juré d'observer la Constitution et de ne pas réviser le nombre et la durée de son mandat. Pour Maître Crépin Boli Goumba, à l'initiative de la saisine de la Cour, il s'agit d'une victoire éclatante. La Cour constitutionnelle a dit le droit et nous acceptons cette décision. Nous aurions dû la consulter en amont du projet de décret, a déclaré Fidèle Gundjika, ministre au conseil spécial du chef de l'État. Fin août, le président Touadéra, élu en 2016 et réélu en 2020, avait mis en place un comité chargé de rédiger un nouveau projet de constitution.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde est en mission à Goma, au nord Kivu, après avoir passé 3 jours à Bunia, en province de l'Ituri. Il vient évaluer l'état de siège en vigueur dans ces deux provinces depuis l'an dernier. Le point avec Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Le premier ministre Michel Sama Lukonde est arrivé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, hier soir pour évaluer l'état des sièges. Il a eu, dès son arrivée, une séance de travail avec les conseils provinciaux de sécurité. Ce matin, il s'est entretenu avec le député national du Nord Kivu et va échanger avec plusieurs couches sociales et politiques pour mieux comprendre la persistance des atrocités dans la région malgré cette mesure exceptionnelle. Les manifestations réclamant la fin de l'état des sièges se sont multipliées avec le massacre perpétré par le rebelle EDF et les attaques meurtrières de miliciens Codeco. Ce mercredi, encore à Rutshuru, un manifestant a été tué pendant une manifestation contre l'inaction de l'armée congolaise face aux rebelles du M23 qui occupent depuis 100 jours Bunagana à la frontière ougandaise. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Plus en bref, 3 personnes sont mortes d'Ebola en Ouganda, portant à 4 le nombre de victimes depuis 3 jours. Et l'annonce par les autorités de la présence d'une épidémie dans le centre du pays a fait savoir aujourd'hui le ministère ougandais de la Santé. Et puis une personne a été tuée ce vendredi dans une frappe aérienne sur la capitale du Tigré, a annoncé le principal hôpital de cette région dissidente du nord de l'Éthiopie où des combats entre rebelles et forces pro-gouvernementales ont repris depuis un mois. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables dans le monde a permis la création de 700 000 emplois l'an dernier. Au total, le nombre d'emplois dans ce secteur a atteint 12,7 millions en 2021. Les deux tiers se trouvent en Asie. La Chine représente 42% des emplois, l'Union européenne et le Brésil 10% et les États-Unis et l'Inde 7%, indique l'IRENA. L'Afrique du Sud a signé hier 3 accords pour la production d'énergie éolienne et solaire, alors que la crise de l'électricité s'est aggravée avec de nouveaux délestages. 25 projets sont prévus pour gérer un supplément de 4,5% par rapport à la capacité actuelle d'électricité. Ces installations pourraient être en service fin 2024. La production d'électricité a chuté de 7,7% en juillet par rapport à la même période en 2021. Selon un rapport de la société de capital risque Agfunder, réalisé avec la Banque néerlandaise de développement entrepreneurial et la Banque britannique d'investissement international, 1,1 milliard de dollars ont été mobilisés pour les start-up agroalimentaires en Afrique ces 5 dernières années. En 2021, les start-up africaines de ce secteur ont capté une somme record de 482 millions de dollars, ce qui représente un bond de 250% sur une année.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le Mali perd encore au mondial féminin de basketball.
Oui, après s'être incliné lors de son premier match 56-89 devant le Japon, le Mali a de nouveau perdu face à l'Australie 58-118. Le troisième match des Maliennes les mettra dimanche aux prises avec la France. Et justement, la France n'a pas pu enchaîner, vainqueur devant l'Australie 70-57. Lors de leur premier match, les Françaises sont tombées 45-59 face aux Canadiennes. Les Américaines, triple tenante du titre, affrontent demain samedi Porto Rico. La Belgique sera opposée à la Corée du Sud.
Basketball toujours, Ime Udeka risque d'être banni de la NBA pour la nouvelle saison.
L'entraîneur des Boston Celtics, finaliste de la NBA la saison dernière, risque d'être suspendu pour tout l'exercice 2022-2023. C'est ce que rapportent des médias américains. Selon ESPN et The Athletic, citant des sources anonymes, Ime Udoka aurait entretenu une relation avec un membre féminin du staff des Celtics, enfreignant le règlement et le code de conduite de la franchise. Avec l'ouverture prochaine des camps d'entraînement, la sanction signifie probablement que l'entraîneur adjoint des Celtics, Joe Mazzulla, assurera l'intérim pour la campagne 2022-2023.
Football, ouverture d'une enquête sur des abus sexuels dans le football féminin en Zambie.
La Fédération zambienne de foot a annoncé l'ouverture de cette enquête après des dénonciations relayées sur les réseaux sociaux d'abus sexuels présumés sur des joueuses de l'équipe nationale féminine. La Zambie fait partie des pays africains avec l'Afrique du Sud, le Maroc et le Nigeria, qualifiés pour la Coupe du Monde féminine en 2023, organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est la première sélection pour l'équipe zambienne. Et selon ces accusations, des joueuses auraient été sélectionnées contre des faveurs sexuelles accordées à certains responsables de la fédération, dont les noms n'ont pas été mentionnés. Nous n'avons reçu aucune plainte officielle concernant ces accusations, mais nous les prenons très au sérieux et une enquête a été ouverte. Ce sont les mots du secrétaire général de l'association, Adriana Kachala, cité dans un communiqué.
Tennis, Roger Federer va terminer sa carrière sur un match avec Nadal.
Le Suisse va disputer l'ultime match de sa carrière ce vendredi avec Rafael Nadal, non pas un adversaire mais un équipier de double lors de la première journée de la Laver Cup. Les deux grands rivaux de ces 15 dernières années seront côte à côte pour représenter l'équipe Europe face à la paire américaine composée de Jack Sock et Francis Tifou, qui représenteront l'équipe monde. Âgé de 41 ans, Roger Federer, vainqueur de 20 titres en Grand Chelem, jouera en soirée à Londres son dernier match avant de mettre un terme à l'une des plus prestigieuses carrières, tous sports confondus.
Page de sport VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président sénégalais Macky Sall confirme qu'il se rendra la semaine prochaine à Bamako au Mali en compagnie d'autres chefs d'État pour une nouvelle médiation concernant la détention de 46 soldats ivoiriens au Mali. C'est l'une des décisions prises hier lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Dans une interview exclusive à la VOA, le président Macky Sall s'est exprimé sur la récente rentrée parlementaire dans son pays. On écoute un extrait de cette interview accordée à Abdourahmane Dia.
Ce sommet extraordinaire avait été convoqué par le président en exercice autour de deux sujets, la Guinée et le Mali. Le Mali, non pas pour sa transition, mais pour la question des 46 soldats encore retenus au Mali. Et la Guinée par rapport au manque d'avancement sur le processus de transition. Nous avions déjà, lors de notre dernier sommet ordinaire, décidé de désigner un nouveau médiateur en la personne du président Yahya Boni, ancien président du Bénin, qui s'est rendu à deux reprises en Guinée, qui a rencontré les autorités de transition, les partis politiques. Mais nous notons un peu de difficultés sur l'agenda et nous n'avons pas de visibilité. C'est la raison pour laquelle le sommet d'hier a tenu à ce que des sanctions soient prises s'il n'y a pas d'évolution. Donc là, c'est le principe des sanctions qui est activé. J'espère que le retour du médiateur devra permettre, avec les autorités de la transition, de faire avancer vraiment l'agenda. Parce que l'idéal pour la CEDEAO, ce n'est pas de faire des sanctions contre un État membre, mais c'est de travailler à vraiment accompagner ces moments difficiles où l'Afrique de l'Ouest est confrontée justement à ces coups d'État répétitifs. Et nous ne voulons plus de coups d'État, d'interruption de cette nature dans le processus démocratique au sein de l'espace CEDEAO. Pour le Mali, évidemment, nous avons désigné trois chefs d'État, dont moi-même, le président du Ghana, le président Nana Akufo-Addo, le président Faure Gnassingbé du Togo, pour nous rendre à Bamako le mardi, si possible, afin de rediscuter encore avec le président Goïta et les autorités de la transition sur la nécessité vraiment d'arriver à une solution qui est la libération des 46 soldats après que les trois soldats femmes aient été libérés. Et c'est une demande pressante et j'espère que nous pourrons obtenir cela dans l'intérêt du bon voisinage, la bonne cohabitation entre pays voisins.
Sur le cas justement des 46 soldats ivoiriens, vous craignez un peu un bras de fer avec la CEDEAO si la solution, si cela ne se décante pas d'ici la semaine prochaine?
Non, il ne faut pas préjuger de bras de fer. Nous, nous souhaitons une solution si les chefs d'État abandonnent toutes leurs activités pour se rendre à nouveau à Bamako. Moi-même, j'ai été à Bamako il y a à peu près un mois. C'est que nous voulons une solution. Donc moi, je préfère être dans la recherche de la solution plutôt que dans d'autres perspectives.
Monsieur le Président, nous allons terminer par un mot sur la politique sénégalaise. La rentrée parlementaire s'est effectuée il y a quelques jours. On a vu des incidents avec des images qui ont fait le tour du monde. Vous avez dénoncé ces incidents. C'est une assemblée générale, une assemblée nationale avec une opposition très représentée. Comment est-ce que vous comptez dérouler votre programme? Vous pensez que d'ici 2024, tout va bien se passer?
Bon, d'abord, il faut dire que le Sénégal est une vraie démocratie. Et dans toutes les grandes démocraties, vous avez de très courtes majorités. C'est ce qui est en cours aux États-Unis, en Europe, dans les parlements. Vous n'avez plus ces majorités écrasantes comme nous, on l'a eu jusqu'à cette dernière élection. Écrasante. Maintenant, On a eu une majorité courte, mais une majorité quand même qui permet de gouverner. Et nous avons un système politique qui fait que l'Assemblée ne peut pas bloquer le fonctionnement de l'État. Ça, il faut que les gens en soient très conscients. Parce que le président de la République, ses pouvoirs ne dépendent pas de l'Assemblée nationale. Du tout. En rien. Et donc, il est aussi par ailleurs le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, y compris de l'Assemblée nationale. Alors, ce qui a été noté est simplement déplorable, dans le sens où le Sénégal, étant une démocratie qui s'est fortifiée, qui a été vécue pendant ces élections et d'autres élections, le peuple, dans une maturité exceptionnelle, a exprimé son choix. Nous, nous l'avons respecté en tant que démocrate.
Macky Sall, président du Sénégal. L'intégralité de cette interview est disponible sur notre site voafrique.com. On reste à New York. Conduit dans la grande métropole américaine est un véritable cauchemar. La situation est pire chaque année au moment de l'Assemblée générale des Nations unies dont le siège se trouve à Manhattan où la sécurité est renforcée durant le séjour des 193 chefs d'État et de gouvernement. Reportage de Caroline Pressouti sur place. Le récit est de Jacques Aristide.
Automobilistes, piétons, tout le monde a subi le calvaire à Manhattan, où vivent plus d'un million et demi d'habitants. La ville étouffe dans les bouchons, alors qu'a lieu l'Assemblée générale de l'ONU. La circulation est toutefois rendue fluide pour les quelques 200 véhicules, transportant les dirigeants du monde, venus prendre part à la grand-messe onusienne. Le sergent Patrick McGuire est du service de police de la ville de New York, assurant la sécurité de l'Assemblée générale des Nations unies.
Il y a les services secrets, le NYPD et les renseignements qui vérifient les convois officiels dans la zone.
C'est le bureau de la sécurité diplomatique du département d'État américain qui s'est installé ici dans un hôtel de Manhattan qui doit d'abord donner le feu vert à ses convois. Il aura fallu 8 mois de planification. Un millier de personnes prennent en charge une centaine de voitures blindées avec le concours d'une équipe d'intervention spéciale. J.R. Kulik, du département d'État, coordonne la sécurité pour l'Assemblée générale de l'ONU.
Donc, ce que nos agents font sur le terrain pour ceux que nous protégeons est de maintenir cette sécurité autour d'eux. Et c'est vraiment intéressant parce que cette sécurité est sans relâche durant tout le trajet. Nous devons nous assurer de maintenir ce cordon de sécurité.
Les services secrets américains s'occupent des dirigeants comme les chefs d'État et de gouvernement. Plus le convoi est long, plus le niveau de sécurité pour le dirigeant est élevé. C'est le cas notamment pour le président turc Recep Tayyip Erdogan. La mission turque, récemment rénovée et qui occupe 40 étages, se trouve en face de l'ONU, ce que certains officiers décrivent comme un cauchemar en termes de sécurité. Kishore Mirchandani vit en face des Nations Unies depuis 15 ans.
Par exemple, je dois aller jouer au golf demain. Alors j'ai laissé mes clubs de golf chez un ami sur la 65e rue.
Toshi Douchka récupère son enfant à l'école maternelle qui se trouve à l'intérieur de la zone de sécurité.
Si je marche, ce n'est pas un problème. Le seul problème, c'est si j'ai besoin de conduire.
Les forces de l'ordre de New York ont donc du pain sur la planche avant et durant la tenue de cette réunion annuelle de l'ONU, mais pas de répit non plus après l'événement.
Nous commençons déjà à planifier notre prochain événement. À Manhattan, il se passe toujours quelque chose.
Et qui dit événement, dit embouteillage.
En République centrafricaine, la Cour constitutionnelle dit non au président Faustin Archange Touadéra sur la modification de la Constitution. La juridiction suprême a annulé les décrets du chef de l'État créant un comité chargé de rédiger une nouvelle Constitution. Yacouba Ouédraogo, agent à Bangui, Crépin Christian Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine.
Pour moi, c'est une décision que j'accueille favorablement. C'est une décision qui émane d'une institution que nous avons mise en place, et ce n'est pas n'importe quelle institution. Cette institution, il faut le dire, la décision rendue par la Cour constitutionnelle n'est pas susceptible de recours. Et donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons faire aussi bien au plan politique qu'au plan scientifique. Je ne vois pas ce que nous pourrons dire d'autre si ce n'est que accueillir cette décision.
La Cour constitutionnelle a dit que la révision de la Constitution est possible, mais pas avant l'institution du Sénat. Elle a aussi rappelé au président Touadéra son serment lors de son investiture, lorsqu'il a juré de ne pas réviser le nombre et la durée de son mandat. Est-ce que vous pensez que le président va se plier?
A priori, le souhait qu'elle vient, et c'est ce que dit la loi, c'est qu'au sortir d'une telle décision, toutes les parties concernées doivent se plier. Le débat ne se pose pas à ce niveau. Manifestement, au regard de ce qui aujourd'hui, après la décision rendue par la Cour, notamment dans le camp de la majorité parlementaire, on entend parler d'un passing, d'un coup d'État constitutionnel. On parlait d'une volonté d'aller coûte au coûte, vaille que vaille, au référendum. Ce que là, il conseille fortement au président de la République. Et c'est lui qui est le leader, c'est lui qui est le chef de l'État, c'est lui qui est le gouverneur de l'institution. Nous n'allons pas moderniser sur les commentaires entendus ça et là, notamment en 5 ans. Nous osons croire que le président va prendre peur.
Avant que la Cour constitutionnelle ne rende sa décision, le président Touadéra avait prévenu que personne, aucune institution n'est au-dessus de la volonté du peuple.
L'affirmation du président Touadéra ou cette assertion, la réponse en réalité se trouve dans la décision rendue par la Cour. Il vous souvient que c'est plutôt une frange des organisations, des associations qui soutiennent la politique du président de la République qui ont exprimé cette volonté et la Cour a rappelé cela à juste titre qu'une frange. L'organisation de la société civile ne constitue pas la population. Et donc, il y a une question de légitimité qui se pose de ce point de vue. Mais pour répondre précisément à votre question, est-ce que le président va aller jusqu'au bout? Je le dis et je ne me répéterai jamais assez sur cette question. En disant que vouloir aller coûte que coûte vers l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle, alors que ça vient d'invalider le décret portant mis en place du comité chargé de l'élaboration de cette nouvelle loi constitutionnelle, c'est une porte à l'anarchie et il faut l'éviter. Il ne faut pas qu'on en arrive là parce que ça va pas comme étant un coup d'État, notamment seul. Et personne ne pourra effectivement respecter les institutions et nous allons rentrer dans l'impasse.
Crépin Crescent Beniga, porte-parole du groupe de travail de la société civile sur la crise en Centrafrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Direction le Cameroun, les autorités veulent désormais garantir la sécurité sociale des employés de maison. Ils sont jardiniers, ménagers, gardiens ou chauffeurs, travaillent parfois jusqu'à des heures indues. Les employeurs des personnels de maison ont jusqu'à la fin de ce mois pour les déclarer. C'est ce que nous dit à Yaoundé Emmanuel Julintap.
Dans ce quartier huppé de Yaoundé, un jeune homme, la vingtaine révolue, taille les fleurs le long des murs d'une propriété privée. Il est employé ici comme jardinier.
Ça fait un mois que je fais ce travail pour la paye. Comme je suis avec mon frère, c'est lui qui est devant. C'est lui qui connaît si on paye bien ou pas.
Quelques mètres plus loin, une jeune dame employée de maison revient des courses sous un soleil de plomb. Elle est dubitative quant à l'opération concernant la sécurité sociale des employés de maison.
D'après moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais est-ce que nos employés vont vraiment coopérer face à ça? Si seulement ça pouvait être le cas, on allait avoir moins de souffrance.
C'est la souffrance qu'endurent de nombreuses femmes de ménage au Cameroun. L'époux de l'une d'elles raconte les difficiles conditions de travail de son épouse.
15 000, 16 000, 20 000, c'est le salaire. Et quand il travaille, il marche à pied pour arriver dans le lieu de service. Là-bas, même là où il travaille, on ne lui met pas de quoi à manger.
À cause du conflit armé dans la région du Nord-Ouest, dans un anglophone, de nombreuses jeunes filles fuyant la précarité se sont retrouvées femmes de ménage. À l'instar de celles dont nous taisons le nom, le salaire minimum pour ce type de personnel est très souvent en dessous de 40 000 francs CFA. Cette autre employée plaide pour une revalorisation salariale.
Je crois que les Camerounais doivent vraiment revoir le salaire à la hausse parce que si on doit payer une ménagère 30 000 et s'il faut encore couper par exemple l'argent de la CMPS à l'intérieur, la maison, la nutrition, les enfants, ça va être vraiment compliqué.
Selon la loi, tous les travailleurs ont droit aux allocations familiales, à la prise en charge des maladies professionnelles et accidents de travail ou encore à une pension retraite. Selon le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, tous les employeurs ont le devoir d'assurer les droits de leurs employeurs domestiques avant le 1er octobre, c'est dans quelques jours. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. À tout à l'heure.